pour que toute l'Assemblée en profite. Et si je donnais un titre à la prédication, ce serait Jonas et le Dieu plein de grâce et de compassion. Alors Jonas, c'était un petit prophète, pas petit par son importance, mais par rapport à Isaïe et à Jérémie, il est classé dans les petits prophètes. Puis il a une particularité, c'est que c'est un livre prophétique qui n'est pas rempli d'oracles, d'appels à la repentance, de jugements, de promesses de salut. Il n'y a pas de grand message dedans. Mais par contre, il y a un récit. Et ce qu'il y a de prophétique, en fait, c'est le récit lui-même qui parle de Dieu. Prophétiser, c'est parler de Dieu. Et c'est le récit lui-même. Car Jonas, c'est un récit avec un héros ou un anti-héros, le prophète, et comme héros principal, le Dieu plein de grâce et de compassion. Et tout au long du récit de Jonas, la bonté et la compassion de Dieu transparaissent. On va souligner quatre révélations de la grâce et de la compassion de Dieu au cours du livre de Jonas. La première, ça va être envers les marins païens, au premier chapitre. Ensuite, envers Jonas lui-même, au chapitre 2, quand il se noie. Ensuite, envers les Ninivites, au chapitre 3. Et enfin, à nouveau, envers son prophète au chapitre 4. Tout d'abord, excusez-moi, on va situer Jonas dans son contexte historique. Rapidement, pour qu'on comprenne de quoi on parle. C'est un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il est dit que c'est Jonas, fils d'Amittai. On le retrouve dans 2 Rois 14, où il dit qu'il prophétisait sous Jéroboam 8. Sous Jéroboam 2, pardon, c'est pour ça qu'on sait qu'il est du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et il prophétisait dans le royaume d'Israël, qui était un royaume assez idolâtre. Et à cette époque, dans le Moyen-Orient ancien, la grande puissance mondiale, celle qui faisait trembler tous ses voisins, c'était la Syrie. Pas la Syrie, S-I-R-I, mais la Syrie, L apostrophe A, 2 S-Y, I-E. En fait, c'est la Syrie, c'est un mot Assyrie. C'est pas là, plus loin, Syrie. Voilà, c'est pour pas confondre, excusez-moi. C'est peut-être clair pour tout le monde, mais voilà. Et c'est au nord de l'Irak actuel, près de Mossoul. Et c'était un empire brutal, avec des guerriers dont la violence était proverbiale. Le prophète Nahum, quand il parle de Ninive, et qui prophétise contre Ninive de la part de Dieu, Ninive est décrite comme une ville qui se repaît de sang, comme un antre du lion, où les lionceaux vont manger ce que le lion a ramené. Ce sont des guerriers cruels, c'est des sanguinaires. Et ce sont les ennemis des peuples alentours, dont Israël, entre autres. Et d'ailleurs, à la fin, quand Israël va être châtié et va partir en 722, ils vont être déportés en Assyrie. Non, on va commencer par lire les premiers versets de Jonas, les quatre premiers. Alors, il n'y a pas de PowerPoint, ceux qui ont des Bibles, sortez-le, les autres ouvriront vos oreilles. Normalement, tout le monde a ses oreilles avec lui, donc ça, c'est bon. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un bateau en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Donc, on ne sait pas pourquoi, en premier temps, Jonas fuit sa mission, refuse sa mission, mais on le verra plus tard. Mais il fuit loin de la présence de l'Éternel à Tarsis. La plupart des archéologues situent Tarsis comme une colonie phénicienne sur la côte espagnole. Donc, Dieu lui demande d'aller au nord de l'Irak actuel. En Assyrie, il part complètement à l'ouest, à Tarsis. Il fuit dans le côté opposé. Pourtant, c'est un prophète qui connaît la parole. Les prophètes connaissent la parole, qu'il sait qu'il ne peut pas fuir Dieu. Écoutez ce que dit le psaume 139. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirige. C'est le psaume 39, 139 de David. Pourquoi je souligne qu'il est de David? David, il a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. Jonas, il est au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc il connaît ce psaume. Il sait que Dieu est présent partout. Il a la révélation de Dieu. Il sait que David disait, où pourrais-je fuir hors de ta présence? Et si je prenais les ailes de l'aurore pour aller au bout de la mer, tu serais toujours là. Or, Jonas fuit. C'est un peu le côté irrationnel du péché. On sait que Dieu fait toutes choses. Mais des fois, dans nos vies, on fait comme s'il ne voyait pas toutes choses, il ne savait pas toutes choses. Et ça arrive à Jonas. Et on voit que sa fuite loin de la présence de Dieu est rythmée par le verbe descendre. Il descend au port de Jaffa. Il descend dans le bateau. Et quand Dieu veut l'arrêter dans sa fuite, qu'il y a la tempête qui arrive, eh bien, il est descendu dans la cale du bateau pour se réfugier dans le sommeil et dans l'indifférence, pendant que tous les autres marins, ils se mettent chacun à implorer leur Dieu dans la suite. Et puis même dans la suite, il est réveillé par le capitaine qui lui demande de prier son Dieu. C'est un païen qui va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Prie ton Dieu toi aussi. Et puis dans la suite de l'histoire, je ne vais pas tout lire, je résume, il y a un tirage au sort, c'est quelque chose qui se fait à l'époque, pour savoir qui attire cette grande tempête, qui attire ce malheur, et le sort tombe sur Jonas. Et là, les marins et le capitaine lui demandent de s'expliquer. Et écoutez ce que dit Jonas, il leur dit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Et puis en plus, il leur apprend qu'il fuit loin de la présence de l'Éternel. Alors, si on lit cette confession de foi, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Elle est juste, elle est orthodoxe. Tout ce qu'il dit Jonas, c'est vrai là. Hein, l'Éternel est bien le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Ce n'est pas un petit Dieu local que l'on peut fuir en prenant le bateau, en changeant de région. Et puis comment Jonas veut-il fuir ce Dieu par la mer alors que c'est ce même Dieu qui a créé la mer. Donc tout ce qu'il dit est juste. Il se présente aussi comme un hébreu qui craint l'Éternel, et pourtant il le fuit. C'est une étrange manière de montrer qu'il le révère, qu'il le craint. Et chose très étonnante, malgré ce piètre témoignage, en plus il est complètement indifférent sur des marins, hein, alors qu'eux, ils essayent de le sauver. Mais malgré ce piètre témoignage, les marins païens vont discerner derrière cette grande tempête la main de ce Dieu dont Jonas leur a brièvement parlé. À la demande de Jonas, qui disent « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête ?» Mais ils leur disent « Jetez-moi à l'eau et la tempête va se calmer. » Donc à la demande de Jonas, ils vont jeter ce dernier par-dessus bord. Et là, au miracle, la mer en furie, c'est littéralement ce qui est écrit, se calme. On va le lire, versets 14 à 16. « Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. » Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Les marins passent de la crainte des éléments déchaînés à la crainte du Dieu vivant. De la crainte des éléments à celui qui les a créés et qui s'en sert comme des instruments entre ses mains. De l'idolâtrie à la crainte du Dieu vivant, à qui ils vont offrir des sacrifices, comme on vient de le lire, et envers qui ils s'engagent. C'est la première révélation du Dieu plein de grâce et de compassion pour les marins païens qui ne le connaissaient pas avant cette tempête. Première révélation du Dieu de grâce. Et en plus, c'est une révélation à double tiroir. Pourquoi elle est à double tiroir? Parce que non seulement ces marins sont sauvés et expérimentent une révélation de l'Éternel, ils s'adressent à lui comme l'Éternel, ils ont retenu ce qu'a dit Jonas. Mais en plus, dans son plan souverain, Dieu se sert de la fuite de Jonas et de sa confession. Malgré tous ses travers, ouais, il est loin d'être parfait, mais sa petite confession, plus liée à la tempête, ben Dieu va commencer à éclairer ses païens, ils vont se tourner vers lui. Et bien, malgré ses travers, Dieu amène ses païens à l'obéissance de la foi par la petite confession de foi de Jonas et par la tempête. Alors, comprenez-moi bien, ce n'est pas un encouragement à la désobéissance, mais plutôt un sujet d'émerveillement devant la grâce souveraine de Dieu, sa sagesse extraordinaire. Est-ce qu'on réalise que dans son plan rédempteur, Dieu intègre même nos erreurs, nos désobéissances, nos manquements, nos imperfections? Quand on partage l'évangile, des fois, on n'est pas toujours génial, loin de là. Dieu se sert de nous. Dieu a choisi la folie de la prédication pour sauver les hommes. C'est la grâce souveraine de Dieu. Je vous raconte une petite anecdote. J'étais à la fac et j'étais avec mon collègue de bureau de banc, là. On ne se connaissait pas trop. Puis on avait parlé quelques fois, puis on commençait à sympathiser. Puis je vais dans un cours, puis j'avais pas trop, ça me plaisait pas trop, j'avais pas trop envie. Puis j'avais pas envie de rester au cours. Et puis je lui dis, j'étais à Paul Valéry, pour ceux qui connaissent, c'est pas loin du zoo de Lunaret. Puis j'ai dit, ça te dirait pas qu'on aille se balader au zoo, il fait beau là. Et on est parti se balader au zoo. Ça l'a vite tenté le truc, plus que le cours. Et moi j'étais jeune chrétien. Donc on pourrait dire, c'est pas génial quoi, c'est rien de très grave, mais bon. On part comme ça, c'est moi qui le pousse à sécher le cours, on va sécher le cours. Et puis là, on commence à marcher, et puis je ne sais pas de quoi on parle, et puis d'un coup, ça me sort, je ne sais pas comment ça me sort, je dis, ouais, de toute façon, je crois qu'on a besoin d'absolu dans la vie. Et puis il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et je dis, ben pour moi, c'est Jésus. Et puis je ne sais pas pourquoi, et puis c'est rentré comme dans du beurre. Et puis, j'ai pu partager l'évangile. Donc vous voyez, c'était une situation, dire, c'est pas génial, quoi. J'ai séché un cours, je le pousse à sécher le cours. Puis j'annonce l'évangile, ben, le Seigneur a touché son cœur quand même. Voilà. C'est la grâce de Dieu. Et quel repos, finalement. Oui, on parle, mais finalement, ça repose surtout sur Dieu et sur son, ça repose sur Dieu et sur son esprit. Et il nous fait collaborer là-dedans. Puis la deuxième révélation du Dieu plein de grâce et de compassion dans le livre de Jonas, ben, c'est son prophète récalcitrant qui va la vivre. On vient de laisser Jonas passer par-dessus bord par les marins. Et puis au chapitre 2, on va le retrouver dans le ventre du grand poisson, envoyé par l'Éternel pour avaler Jonas. Chaque fois que vous voyez le mot grand, c'est un petit truc, si vous lisez Jonas, il y a la grande Ninive, Dieu l'a à cœur, il envoie une grande tempête, il y a une grande crainte suscitée dans le cœur des parrains, il y a un grand poisson. Chaque fois qu'il y a le mot grand, ça structure le livre de Jonas, mais ça parle de l'intention de Dieu. On va lire les versets 1 à 5. « Dont l'Éternel, dont Jonas vient de tomber à l'eau, fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel. À l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme, au fond des mers, et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, je reverrai ton temple saint. » Donc on voit plusieurs choses. On voit que d'abord, dans le ventre du poisson, il a eu le temps de réfléchir, il a déjà été sauvé, et puis il s'adresse à son Dieu. Il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. L'Éternel, c'est le Dieu d'Israël, c'est son nom, celui qui a fait alliance, et c'est le Dieu que connaît Jonas. Il reste son Dieu, Jonas reste son prophète. Et puis, si on va au verset 8, on va sauter au verset 8, plus loin. Il est en train de soigner, il dit « Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel. » Et c'est pour ça qu'il adresse sa prière à l'Éternel, son Dieu. D'ailleurs, tout le long de la prière, après, il tutoie son Dieu. Il le connaît et c'est le sien, il lui appartient. Et puis on voit que l'expérience qu'il relate, « Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des mers et les courants m'ont encerclé. Tout est flou et tes vagues ont déferlé sur moi. » C'est une expérience qui s'est passée avant que le poisson l'avale. Et là, il est dans le ventre du poisson, il médite tout cela, et il rend grâce à Dieu pour son intervention et pour son salut. Et au verset 5, on a lu, « Je me disais, je suis chassé de devant toi, pourtant je reverrai ton temple saint. » Pourquoi ? Parce que Jonas a l'assurance que si Dieu a commencé à le délivrer en envoyant ce poisson, il le poursuivra jusqu'au bout de sa délivrance. Et en effet, au verset 11, l'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Moi, ça me fait penser à Philippiens 1,6, qu'on peut tous s'approprier, évidemment. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Ça, c'est un profond encouragement. Il y a les moments, des fois, où on peut trouver ça difficile, où on peut ramer. La Jonas, il ne rame pas, il coule, lui. Il a été rattrapé. Rappelons-nous que ce que Jésus-Christ a commencé avec nous, il va le continuer. Notre Dieu est persévérant et plein de compassion et de bonté. On va lire le verset 6 à 8, où Jonas décrit ce qui l'a poussé à crier à Dieu avant de se retrouver avalé par le poisson. Il raconte sa noyade. « Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait tout autour de ma tête et des algues s'enlaçaient. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers où naissent les montagnes. La mer avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours, mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô éternel mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. On voit au verset 7, et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers où naissent les montagnes. Dans le premier chapitre, Jonas, on a vu, était descendu au port, était descendu dans le bateau, était descendu au fond de la cale. Mais chaque fois, c'était à son initiative. Il pensait un peu contrôler sa rébellion contre Dieu. Il était tout à la fois responsable et victime de son péché, comme chaque fois que nous perdons notre communion avec Dieu, que nous faisons des mauvais choix. On est à la fois responsable et à la fois victime de notre péché. Mais on est responsable, mais on s'est fait séduire par notre péché. Mais là, Jonas ne maîtrise plus rien. Il voulait fuir la présence de Dieu, mais une fois sa communion perdue, une fois dans la détresse, il réalise qu'il était bon d'être dans la présence de l'Éternel, de marcher avec lui. Et parfois, on a peut-être pu vivre que quand nous nous sommes mis dans la mouise par nos mauvais choix, si nous avons perdu notre communion avec Dieu et qu'on commence à perdre pied, ce qui semblait au début comme une liberté à l'égard de la volonté de Dieu, eh bien, se retourne contre nous. On s'est privé de la source de vie, de la grâce de Dieu. Jonas dira après, au verset 9, « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce, contrairement au Dieu vivant avec qui on a une relation. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifie de tout le mal que nous avons commis. » Ça aussi, c'est à chaque moment de notre vie. Au verset 8, quand Jonas s'est mis à désespérer de conserver la vie et qu'il s'est souvenu de l'Éternel son Dieu, c'est à ce moment-là, c'est quand il a touché le fond que le Seigneur l'a relevé. Et là, on voit la deuxième grâce et compassion de Dieu envers son prophète, qui à la fin reconnaît que le salut appartient à l'Éternel et est rejeté sur la plage par le poisson. Voilà. On voit Jonas vraiment qui est touché, qui est relevé et qui va bénéficier de la même grâce. Et à la fin, d'ailleurs, à la fin du chapitre 2, il en vient à la même chose que ça avait confessé les marins du premier chapitre. Les marins désespérés de la tempête, ils ont crié à Dieu. Dieu a calmé la tempête. Et puis finalement, ils ont été saisis de crainte. Ils ont offert des sacrifices à Dieu, se sont engagés envers lui. Là, Jonas est sauvé. Il désespère de perdre la vie. Il est sauvé. Et à la fin, il finit quoi ? Il finit parce qu'il rend grâce à Dieu. Il s'engage à nouveau envers Dieu. Il a expérimenté le salut et la reconnaissance et la crainte viennent dans son cœur naturellement. Et puis, on va voir une troisième révélation du Dieu plein de grâce et de compassion qui se retrouve dans le chapitre 3 de Jonas. C'est la conversion des Ninivites. Parce que Jonas va aller voir les Ninivites finalement. Tout d'abord, nous avons vu que Jonas avait été au bénéfice de la grâce de Dieu, hein, qu'il avait relevé, sauvé de la mort. Et dès le début du chapitre 3, on voit que cette même grâce se poursuit. Car Dieu n'a pas disqualifié son prophète. Dieu aurait pu lui dire, bon, je t'ai sauvé, je te rejette, on en prend un autre pour continuer là. On en prend un peu plus qui collabore un peu, quoi. Mais là, non, l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. Mets-toi en route, le même truc, la même exhortation qu'au début. Va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. Et cette fois, Jonas se met en route. On voit que Dieu restaure Jonas dans son appel, qui est de proclamer le message qui lui communique. Jonas a été têtu, Dieu persévérant et patient, comme envers nous dans nos vies. Dieu veut sauver les Ninivites, les appeler à la repentance, et Jonas va annoncer un jugement à venir sur Ninive. Et chose étonnante à première vue, ce peuple réputé cruel voit dans cette annonce du jugement un avertissement, une possibilité de changer. Il voit la grâce possible dans cette annonce du jugement. Imaginez-vous, vous voulez rentrer dans une propriété, vous sonnez, il n'y a personne, et puis, vous dites, je vais rentrer pour voir, je vais ouvrir le portillon, je vais sonner à la porte directe, et puis d'un coup, vous entendez des gros aboiements. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je recule et je referme la porte. Et puis, tant pis, hein, si personne ne me répond, je ne rentre pas. Par contre, si vous rentrez, vous y allez, et puis d'un coup, le chien, c'est un gros chien, et lui, il n'aboie pas. Il y a des chiens comme ça, les Rottweilers, ils n'aboient pas. Ils laissent le voleur rentrer, ils le coincent après. Parce qu'ils n'ont pas peur. C'est les petits chiens qui aboient des fois, parce qu'ils ont peur. Et vous rentrez, vous vous retrouvez coincé. Mais là, c'est la même chose. Ninive était un peuple cruel et méchant. Dieu aurait pu le juger comme ça. Paf ! Ben non, il a averti qu'il allait se passer quelque chose. Et dans cet avertissement, les Ninivites ont pris la perche pour dire, et si on crie Dieu à Dieu pour obtenir sa grâce? Et c'est ce qui s'est passé. Donc dans le jugement de Dieu, il y a une grâce. Si quelqu'un s'approche d'une falaise, il marche dans le brouillard, et au bout il y a une falaise, vous connaissez le sentier, vous dites, attention, arrête-toi. Au bout du brouillard, il y a une falaise, tu vas tomber. Ben, c'est un avertissement, mais c'est un avertissement qui lui permet de changer. Il y a des avertissements qui sont bons pour le salut. Il y a la grâce dans l'avertissement. Et donc, les Ninivites vont se repentir, repentance générale, avec des signes extérieurs de leur époque, c'est-à-dire, à l'époque, eh bien, quand on se repentait, eh bien, on jeûnait, on se mettait de la cendre, on mettait des vieux vêtements, des fois, il y en a qui déchiraient leurs vêtements. Là, même le roi fait ça. Et autre chose, parce que ça, c'est juste des signes extérieurs, et le roi demande d'abandonner son péché, que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Parce que les Ninivites eux-mêmes savent bien qu'ils sont violents. On va le lire, ça quand même, c'est intéressant. Par ordre du roi et de ses ministres, il interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros, bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toiles de sac et crier à Dieu de toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait ? Peut-être Dieu se ravisera-t-il, décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont les avait menacés, il s'en abstint. Incroyable, hein ? Dieu pardonne car il aime pardonner. Dieu pardonne celui qui se repent, c'est un principe que l'on retrouve dans toute l'Écriture. Et là, c'est la troisième manifestation du Dieu plein de grâce et de compassion dans le récit de Jonas, envers des gens qui ne méritent absolument pas. Écoutez le verset Romains 6, 23, « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, son Seigneur. » Quand je travaille, mon patron il me paye un salaire. C'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire. Eh bien, le salaire que mérite le péché, c'est la mort. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Dieu aurait jugé Ninive sans rien dire, il saurait rester juste. Mais de l'évangile, le don de la grâce de Dieu. Déjà, un don, ben c'est un don, c'est donné, quoi, c'est pas mérité. Ça rajoute de la grâce de Dieu, le texte est redondant. Que Dieu accorde, ça insiste, pour montrer la différence entre le salaire et combien la grâce est bien plus forte que ce salaire. C'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, son Seigneur. La mort ou la vie éternelle. Le salaire ou le don de la grâce que Dieu accorde. C'est incroyable. Et c'est ce qui se passe avec les Ninivites. Est-ce que les Ninivites méritaient le jugement? Oui. Est-ce que je méritais le jugement, moi? Oui. Mais le Dieu plein de grâce et de compassion offre son pardon à quiconque lui demande, à Jonas, aux Ninivites, à moi, à tous ceux qui s'approchent de lui par Jésus-Christ. Si quelqu'un se pose des questions, est-ce que Dieu peut me pardonner? Bien sûr. Il a envoyé Jésus pour ça. N'ayez pas peur de venir à lui. Il aime pardonner. Il est généreux. Dieu aime faire grâce. C'est son caractère, c'est son cœur. La suite du récit va nous montrer que ce n'est pas le cas de Jonas, dont nous allons voir la réaction au pardon de Dieu au début du chapitre 4, excusez-moi, je vais boire un coup. Et ça va même nous permettre d'enfin comprendre le motif profond de sa désobéissance du début. On relit le dernier verset, voilà. 3:10. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont les avait menacés, il s'en abstint. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à Dieu. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays, et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. » Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la vie vaut mieux pour, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. On voit que Jonas, pour ceux qui n'avaient jamais lu l'histoire, quand on la découvre au fur et à mesure, si vous la connaissez, vous la connaissez, on voit le début, tiens, il fuit, on ne comprend pas trop pourquoi, on voit qu'il ne veut pas. Puis d'un coup, on arrive au chapitre 4, on a la clé. Jonas n'a jamais fui à Tarsis par peur des Ninivites, par peur de leur méchanceté, de leur cruauté. Il a affronté la tempête, fait... c'était pas un dégonflé, il ne voulait pas faire la volonté de Dieu, mais il n'a pas l'air d'être un peu heureux. Mais par contre, ce que craint Jonas, ce dont il a peur, c'est que les Ninivites se repentent et qu'ils aient affaire au Dieu plein de grâce et de compassion, lent à se mettre en colère et riche en amour, et qui renonce volontiers, volontiers aux menaces qu'il profère. Alors que Jonas a annoncé à contre-cœur la parole de Dieu aux Ninivites, Dieu lui dit d'annoncer un message, il dit « Dans 40 jours, vous allez être jugés. » On voit qu'il n'est pas un grand enthousiasme. Quoi. Il n'est pas là en train de dire aux Ninivites « Je vous en supplie, repentez-vous, Dieu risque de vous juger. » Non, il y va, mais il fait le strict minimum. Et par contre, Dieu, lui, renonce volontiers aux menaces qu'il profère. Il prend plaisir à faire grâce. Et ce petit ajout qu'on a à la confession de qui est Dieu, plein de grâce et de compassion, lent, se mettre à la colère riche en amour, et qui renonce volontiers aux menaces qu'il profère, cet ajout, qui renonce volontiers aux menaces qu'il profère, ne se trouve qu'à un seul endroit dans les Écritures. Le reste de la confession, on le voit dans Exode, quand Dieu se révèle à Moïse, on le voit dans des psaumes, on le voit dans plusieurs passages des Écritures. Mais ce petit ajout, qui renonce volontiers aux menaces qu'il profère, se trouve dans un seul autre endroit, c'est dans le prophète Joël, au chapitre 2, verset 13. On va le lire. C'est exactement cette phrase que Jonas reprend. On commence au verset 12. « Mais maintenant encore, l'Éternel déclare, revenez à moi, revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en amour, et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. » Même contexte, ils sont un peu là à se repentir, à jeûner, à déchirer leur cœur. Et vous savez quand ça se passe? Un siècle avant Jonas. Ça se passe au 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc Jonas connaît le prophète Joël. Il y a des promesses de restauration pour Israël. Un siècle avant, Israël a bénéficié du pardon de Dieu quand il a répondu positivement à l'appel de Joël. Et là, un siècle après, Jonas va annoncer aux Ninivites. Et il sait que si Dieu a pardonné aux Israélites et qu'il a renoncé volontiers, eh bien il va se passer peut-être la même chose avec les Ninivites. Et c'est ce qu'il craint et c'est ce qu'il se passe. C'est incroyable, hein ? Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Voilà. Mais là, le problème pour Jonas, c'est que c'est pour un ennemi d'Israël. Et d'après lui, il ne mérite vraiment pas. Est-ce que la grâce se mérite ? La réponse est dans la question, hein ? Est-ce qu'Israël avait mérité la grâce? Est-ce que Jonas avait mérité la grâce? Est-ce que je la mérite? C'est plus une grâce, sinon. En tout cas, Jonas trouve ça très choquant. Et en général, ce que produit la grâce de Dieu, c'est qu'en général, il y a toujours un moment où ça choque, où on trouve ça scandaleux. Et des fois, on trouve ça plus scandaleux pour des gens qu'on n'aime pas que pour nous. Et Jonas préfère mourir, c'est ce qu'il demande à l'Éternel, que de voir ce dernier être bon envers ses ennemis, envers des gens qui n'aiment pas. Et comment Dieu, par contre, va réagir à la nouvelle colère de son prophète, à sa dureté? Et là, c'est la quatrième manifestation du Dieu plein de grâce et de compassion dans le récit de Jonas. Et elle est à nouveau en faveur de son serviteur, de son prophète récalcitrant. Et là, Dieu va agir avec une grande patience et beaucoup de pédagogie. Par trois fois, au chapitre 4, l'Éternel va s'approcher de son prophète. Au verset 4, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Puis après, au verset 6, il va avoir l'histoire du ricin qui fait pousser, qui apporte de la fraîcheur à Jonas, et qui après, finalement, soulage Jonas, et après, Dieu va le faire sécher, ce ricin. Et puis, Jonas va de nouveau se mettre en colère, et au verset 9, à nouveau, « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin ?» Et le livre de Jonas finit bizarrement. Au verset 10 et 11, il se termine par une interpellation de l'Éternel à son prophète, mais on ne sait pas ce que va répondre le prophète. Et entre-temps, Dieu va même faire vivre une parabole à Jonas. Il va la vivre en direct, une leçon de choses. On va la lire dans les versets 4 à 11. C'est la fin du chapitre et la fin du livre. L'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et s'assit dessous à l'ombre en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Peut-être qu'il se dit, on ne sait jamais là, peut-être que finalement ils vont se faire juger, on ne sait-on jamais. Je pense que c'est vraiment ce que croit Jonas, parce qu'il est vraiment en colère contre la réaction de Dieu qui pardonne aux Ninivites. Puis l'Éternel fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant et le soleil tapa sur la tête de Jonas, sur le point de tomber en défaillance. Jonas demanda la mort en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie ». Dieu demanda à Jonas « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin ?» Il répondit « Oui, je le fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort ». Alors l'Éternel lui dit, tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. Donc d'un côté, je résume, on voit Jonas et son ricin qui disparaît, puis Jonas en est affecté. De l'autre côté, il y a Dieu et les Ninivites qui pourraient disparaître si Dieu n'annulait pas son jugement. C'est comme si Dieu essayait de communiquer son cœur à Jonas. À combien plus forte raison cela attristerait Dieu si les Ninivites, qui sont ses créatures et dont il prend soin depuis leur naissance, alors qu'à contrario, le ricin, lui, il était tout récent et que Jonas n'en a pas pris soin, qu'il n'y a rien coûté. Mais si ces Ninivites-là, si ces Ninivites-là venaient à disparaître, des créatures de Dieu, qui eux n'ont pas eu en plus le privilège d'une révélation comme Israël. Ils ne savent pas distinguer le bien du mal. Et là, à travers cette parabole et à travers la manière dont Dieu vient chercher son prophète, on voit qu'au-delà du service de Jonas, qu'il accomplit de manière un peu contrainte, un peu à contre-cœur, mais dont Dieu s'est servi pour manifester sa grâce, comme avaient les païens sa confession de foi, qui était le minimum, strict minimum, qui était un peu contredit par ses actes, mais dont Dieu s'est servi. Eh bien, au-delà de ça, le Seigneur veut aussi transformer le cœur de son serviteur. Il se préoccupe autant du serviteur que du service. Il veut que Jonas se réjouisse avec lui du salut des Ninivites, qu'il partage la joie du salut. Il veut le gagner à sa cause. Et on peut voir là encore une grâce de plus de la part du Dieu, pleine de compassion et de grâce. Ça finit comme ça. Comme on a lu à la fin. Le livre de Jonas, on pourrait dire, se termine en queue de poisson. Sans qu'on ait la réponse du prophète, va-t-il se réjouir avec Dieu du changement et du pardon d'Ninivite ? Va-t-il répondre favorablement à l'invitation de l'Éternel ? Alors, j'aime à penser que oui, parce que la tradition judéo-chrétienne voit en Jonas l'auteur du récit. Et s'il a écrit et qu'il se met lui-même en scène d'une manière pas très favorable, c'est pour enseigner les Israélites et parce qu'il y a répondu favorablement. Sinon, il n'aurait sûrement pas écrit ce livre. Mais, par cette fin ouverte, le livre de Jonas interpelle les lecteurs, les Israélites de l'époque, et puis bien sûr nous, moi, comment je réagis à la grâce de Dieu ? C'est comme le Seigneur nous interpellait. Et vous, qu'en pensez-vous ? Il y a une autre histoire comme ça de Nouveau Testament. Vous vous rappelez la parabole avec les deux fils ? Le fils aîné et le fils cadet ? Le fils cadet, il part. Il dépense toute la fortune à la débauche, il revient et il est accueilli à bras ouverts par le père. Pardon généreux. Le fils aîné, il entend ça, il revient, qu'est-ce qui se passe ? Il est scandalisé, il se met en colère, comme Jonas qui se met en colère parce que Dieu accorde le pardon aux Ninivites. La même chose. Et puis comment réagit le père ? Mais comme Dieu avait Jonas, est-ce qu'il dit au fils, est-ce qu'il ignore le fils aîné ? Non, il va le voir et dit, ton frère est revenu. Il fallait se réjouir, viens avec nous, joins-toi à la fête. Joins-toi à la fête. C'est la même chose. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, comme dans Jonas, on n'a pas la fin. Jésus s'arrête là. C'est comme s'il était en train de dire aux gens qui étaient scandalisés par son amour envers les pécheurs, et alors, comment vous réagissez-vous ? Comment on réagit ? C'est un petit peu ça. Y a-t-il des gens parmi ceux que nous côtoyons à qui nous ne voulons pas partager la grâce de Dieu ? Parce qu'ils nous dérangent ? Parce qu'ils nous ont fait du tort ? Parce que ces gens-là, je les crains un peu, Oh lui, ah non, là, voilà, oh, ça va, la grâce, mais là, tel péché, là, je ne suis pas à l'aise avec. Et des fois, on dit, oh non, lui, c'est pas la peine, c'est une cause perdue. Est-ce que des fois, on réagit comme ça? Je pense que ça nous arrive tous par moments. Et Dieu nous interpelle à travers ces récits. Laissons-nous interpeller par cette question. Je vous propose, pour finir, on va juste tous fermer les yeux. Et puis dans son cœur, on se remet devant Dieu et laissons-nous toucher par la grâce de Dieu. Je reprendrai la parole juste une minute après. Seigneur, je te remercie de la grâce incroyable dont tu m'as fait bénéficier en Jésus. Merci pour la grâce pour chacun de nous, Seigneur. Merci de toujours nous la rappeler, nous la rendre de plus en plus imprégnée. Et merci que nous puissions toujours plus la partager autour de nous, Seigneur. Merci de nous en rendre toujours conscients. Et merci de nous guider là-dedans, en ton précieux nom, Jésus.